franceinter.fr.
À la une de la science, la planète Mars est une découverte qui change profondément l'idée qu'on avait jusqu'ici de sa jeunesse, Catherine.
Imaginez un fruit dont la chair aurait tourné autour de son noyau, ou pour la Terre, que le pôle Nord, par exemple, se retrouve à Paris sans que le noyau ne bouge. C'est un phénomène de basculement de ce genre qu'une équipe de planétologues français et américains vient de révéler dans la revue Nature, parue en ligne hier.
Pour en parler avec nous en studio, Sylvain Boulet, vous êtes planétologue au GEOPS, un laboratoire de l'Université Paris Sud et du CNRS. C'est vous qui avez mené cette étude incroyable. Alors que s'est-il donc passé à la surface de Mars il y a environ 3 milliards d'années? Pouvez-vous nous décrire précisément ce grand basculement martien?
À la jeunesse de Mars, c'est toute une histoire, effectivement. Aujourd'hui, on en sait un petit peu plus. Ce qui s'est passé, tout simplement, depuis à peu près entre 4 milliards d'années et 3,5 milliards d'années, on a eu un immense dôme volcanique qui s'est formé, des épanchements de lave sur des milliers de kilomètres, qui a formé un espèce de dôme de plus de 5000 km de diamètre sur 12 km d'épaisseur. Et au cours de sa croissance, à un moment donné, cette grosse verrue, est devenue trop grosse et toute la planète a finalement basculé.
A piqué du nez sous le poids de sa verrue.
Voilà, exactement. Imaginez-vous, vous mettez une grosse verrue sur le front remplie de plomb, votre tête va basculer et du coup, on va modifier le visage de la planète Mars.
Catherine.
Est-ce qu'on avait déjà une idée de ce phénomène de basculement? Est-ce que ça s'est déjà vu ailleurs?
Oui, alors ce phénomène de basculement a été mis en évidence par des géophysiciens. Théoriquement, on le sait, ça peut exister sur la planète Terre, sur des satellites, et on le savait aussi que ça pouvait exister sur la planète Mars.
Donc ça s'appelle le Polar Wandering, et alors jusqu'ici, l'hypothèse a été faite par calcul, par modèle géophysique. Vous l'avez fait à partir d'observations de terrain, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, on cherchait finalement des preuves sur la surface qui pouvaient montrer ce basculement. Et comment on l'a trouvé? Bien grâce aux rivières à la surface de Mars. En fait, si on regarde aujourd'hui les rivières à la surface de Mars, on a l'impression qu'elles sont un petit peu partout dans l'hémisphère sud, un peu situées aléatoirement. Et si on rebascule la planète et qu'on la remet à l'endroit comme elle était avant le basculement, on se rend compte que toutes ces rivières s'alignent sur une bande tropicale, là où finalement il y avait de la neige, de la glace qui s'accumulait, et où finalement toute cette glace était la source de ces rivières qui coulaient gentiment vers l'hémisphère nord.
On se demande presque pourquoi on ne l'a pas vu plus tôt, ça paraît presque évident maintenant que vous nous le dites, tout rentre dans l'ordre en quelque sorte.
Alors tout rentre dans l'ordre effectivement, mais il faut effectivement essayer de faire le lien entre ces observations de géophysique, ces observations de surface, le climat, donc ça c'est finalement l'interdisciplinarité, de se parler entre scientifiques, et c'est ce qui fait la réussite de ce papier et de toute l'équipe qui a travaillé sur cette publication.
Sylvain Boulet, est-ce que ces phénomènes de basculement ont pu concerner la Terre à une certaine époque, ou c'est totalement impensable?
Oui, non, on le pense, plusieurs équipes travaillent sur ce phénomène de polar wandering sur Terre. Vous savez, sur Terre, la Terre respire avec cette tectonique des plaques, les plaques se rassemblent, s'éloignent, etc. Et finalement, la répartition des masses à la surface de la planète Terre change sans cesse depuis 4 milliards d'années, et on a eu certainement des ajustements liés justement à cette tectonique des plaques.
Là, ce qui est très différent sur Mars, c'est que donc la croûte et le manteau ont basculé en même temps, et donc on ne peut pas vraiment parler de tectonique, et là, pour le coup, on peut l'observer parce que tout ça est figé aujourd'hui.
Exactement, sur Mars, on a cette chance-là pour connaître l'histoire primitive, c'est qu'on a des terrains très très vieux, entre 3 et 4 milliards d'années, et donc on arrive à replonger dans l'histoire et à retrouver la trace de ce basculement.
Alors, qu'est-ce qu'une telle découverte va apporter aujourd'hui pour la compréhension de Mars?
Alors, un tel basculement, évidemment, ça va avoir des conséquences sur le climat. Imaginez-vous, sur Terre, effectivement, si on met le pôle Nord en Islande, Paris va se retrouver sur le cercle polaire, notre Bourgogne va se retrouver en Mauritanie ou au Soudan. Bref, sur le climat général de la planète, ça a changé des choses. Aujourd'hui, on arrive à mieux comprendre l'histoire primitive avant le basculement. On arrive à montrer que toute cette période avant le basculement, il y avait des volcans qui émettaient beaucoup de lave, qui étaient contemporains à l'activité fluviale. Et puis après ce basculement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question aujourd'hui. Qu'est-ce que ce basculement a provoqué? Est-ce qu'il y a eu un arrêt du champ magnétique, une disparition de l'atmosphère? Bref, il y a encore de nombreux mystères.
Est-ce qu'on peut envisager finalement que la vie sur Mars aurait pu, évidemment on est vraiment au conditionnel là, mais aurait pu apparaître à cette époque, et puis ce grand basculement aurait tout fait flancher, aurait stoppé net l'apparition de la vie, alors que sur Terre, ça a continué.
Bon, vous avez, voilà, vous avez trouvé ma pensée la plus profonde, j'ose pas le dire, parce qu'il ne faut pas trop en parler. On espère trouver un jour de la vie. Si on envoie une sonde dans 2 semaines, ExoMars, c'est quand même pour essayer de retrouver ces petites traces de vie. Et effectivement, si la vie est apparue, c'est avant ce basculement. Si la planète a changé de visage, peut-être qu'effectivement, ce basculement est à l'origine de beaucoup de chamboulements à la surface.
Dans une moindre mesure, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les prélèvements géologiques qu'on pourrait effectuer sur Mars ou qu'on a effectués n'ont pas la même signification désormais grâce à votre découverte.
Bah, c'est ça, en fait, maintenant, quand on va étudier ce premier milliard d'années, tous les endroits qu'on a étudiés auparavant, il va falloir le recontextualiser avec la nouvelle géographie, parce que c'est ça qu'on propose, c'est finalement une nouvelle géographie martienne pour le premier milliard d'années. Donc on va avoir tous les sites d'atterrissage des différents robots, il va falloir repenser un petit peu où est-ce qu'ils étaient dans cette nouvelle géographie.
Et notamment la sonde Phoenix qui avait fait des prélèvements de glace, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement?
Effectivement, moi je trouve cette coïncidence assez troublante.
Expliquez-nous la coïncidence.
le robot Phoenix, donc c'est un petit lander américain qui s'est posé en 2008 aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, et il est allé se poser pour gratouiller, pour essayer de trouver de la glace juste dans le premier mètre. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui avec cette étude que ce robot s'est posé exactement au pôle nord qu'on a calculé, l'ancien pôle nord. Donc aujourd'hui, si on va voir les paysages de Phoenix, on voit des paysages complètement désertiques, mais peut-être qu'effectivement, il y a 4 milliards d'années, il y avait peut-être 1 kilomètre de glace sur ce site-là. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la glace en profondeur, et que cette glace en profondeur à plusieurs dizaines de mètres sous le site d'atterrissage, eh bien elle viendrait peut-être de cette calotte polaire qui s'était formée il y a 4 milliards d'années. Donc voilà, aujourd'hui un site où on est allé un peu par hasard.
On y est vraiment allé par hasard avec le Phoenix à cet endroit ?
On y est allé parce qu'on savait qu'il y avait un tout petit peu de glace sur la surface et qu'il y avait une anomalie, on comprenait pas pourquoi il y avait cette anomalie. Aujourd'hui, je vais pas dire qu'on en est sûr, mais en tout cas elle correspond exactement à l'emplacement de cette ancienne calotte polaire.
Rassurez-nous, il n'est pas prévu, il n'est pas envisageable qu'il arrive la même chose à la Terre dans les prochaines semaines, ni même dans les prochains millions d'années.
Hein. Non, ça va, on est tranquille. Et puis même si ça avait lieu, c'est un phénomène qui est lent, hein, c'est-à-dire que ça n'arrive pas comme ça en quelques secondes. Là, sur le basculement sur Mars, ça a duré certainement quelques dizaines de millions d'années, donc c'est un basculement très lent, on a le temps de le voir, mais c'est vrai que ça a des conséquences très importantes sur le long terme.
Un grand merci à vous, Sylvain Boulet, d'être venu nous parler de ce grand basculement martien. Et merci à vous, Catherine. À demain.
Merci, à demain.
Merci. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les dérèglements du climat pourraient causer plus de 500 000 décès en 2050. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont étudié l'impact des changements climatiques sur l'agriculture et donc sur notre équilibre nutritionnel. Leur conclusion, sans réduction significative d'émissions de CO2, une personne mangera en moyenne 99 kilocalories en moins chaque jour. L'obésité reculerait donc potentiellement, mais puisque notre consommation de fruits et légumes baisseraient aussi, nous serions moins bien nourris. Ce bilan hypothétique pourrait amener les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques en profondeur pour s'adapter aux variations du climat. La libellule est l'insecte qui migre le plus loin par rapport à sa petite taille. Le nouveau champion du voyage est le Pantal Globetrotter. En Amérique du Sud, au Japon, en Inde ou encore au Texas, ce petit insecte de 4,5 cm est implanté presque partout. Et les chercheurs n'ont pas trouvé de différence génétique significative entre ses habitants éloignés, ce qui suppose qu'ils sont issus de la même lignée de libellules sauvages. Selon les chercheurs, si cette espèce de libellule va jusqu'à 2 fois plus loin que les autres insectes, c'est grâce à ses ailes qui présentent plusieurs surfaces de contact avec le vent. Le Pantal Globetrotter n'a donc pas volé son surnom. Les abysses de l'océan Pacifique ne sont pas silencieux. Ils grouillent même de bruit en tout genre. Communication entre mammifères, sous-marins, moteurs de bateaux ou encore tremblements de terre comme celui-ci. Les Américains ont plongé pendant 3 semaines leur hydrophone à 11 km sous l'eau, dans le point le plus profond des océans jamais enregistré au sein de la fosse des Mariannes, non loin de la Micronésie. Dans les années 60, cette fosse aurait dû être utilisée comme décharge de déchets nucléaires, mais la découverte de formes de vie sous-marine a heureusement fait capoter le projet. Vous pouvez donc dès à présent profiter de cette douce cacophonie sous-marine sur le Facebook de La Tête au Carré.